Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bienvenue sur les antennes de Radio Immo, Radio Territoria. Ravi de vous recevoir ici. Nous sommes à Montpellier en direct du 84e congrès HLM. Nous sommes ici sur le stand de Procivis qui nous accueille. Et d'ailleurs, je remercie toutes les équipes qui nous ont accueillis tôt ce matin. Automatisation des tâches administratives, analyse prédictive, personnalisation des services. On va s'intéresser à un sujet vraiment d'actualité puisqu'il s'agit de l'intelligence artificielle, l'IA, l'avenir dans les métiers de l'immobilier. Voilà pour le thème de cette émission avec deux invités que je m'empresse de vous présenter. Martin Pavanello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur et CEO de Mysteria, une agence créée maintenant en 2023 et qui accompagne les entreprises dans leur bonne appréhension des nouveaux outils de l'IA générative. Alors on pense à ChatGPT, Bard, Claude et entre autres. On en parlera évidemment un peu plus en détail dans un instant. Et puis également à cette table, Mathieu Nédonchel, bonjour.
Bonjour.
Directeur général du groupe immobilier CISN en Loire-Atlantique, à Saint-Nazaire. Voilà, on salue les Nazériens. Voilà pour la petite anecdote. C'est une ville sympa. Vous êtes à la fois promoteur, bailleur et puis agence immobilière.
Exactement.
Voilà, et vous nous expliquerez comment vous appréhendez justement l'IA générative et comment vous l'utilisez d'ailleurs. Martin, est-ce qu'on peut commencer tout simplement par une présentation de Mysteria concrètement, si on devait faire un pitch?
Oui, bien sûr, avec plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. Donc Mysteria s'est créé en effet il y a un an avec un objectif assez clair. C'est de se dire comment on va réussir à mettre de l'IA générative dans les mains des professionnels de l'immobilier pour leur faire gagner un peu de temps, un peu de qualité dans les tâches et un peu de confort de travail. Et donc on a identifié qu'il y avait deux gros besoins auxquels on essaie de répondre aujourd'hui. Le premier, c'est vraiment d'identifier les cas d'usage très concrets de cette IA générative. On en a beaucoup parlé, mais quand vous mettez ChatGPT dans les mains de quelqu'un, sa première réaction, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire avec. Ouais. Donc nous, on essaye de vraiment creuser les métiers, comprendre que font les collaborateurs, quelles sont leurs tâches répétitives, quelles sont leurs tâches à faible valeur ajoutée, etc. Et de leur dire, voici tout un panel de solutions, voici comment l'IA pourrait vous aider au quotidien. Ça, c'est via des missions d'audit et de conseil. Et derrière, il faut former les collaborateurs. Et donc, d'accord, on est devenu le plus gros organisme de formation sur ces sujets, tous secteurs confondus, en France. Et on forme vraiment à l'utilisation des outils. Comment je dois parler à l'IA, sur quel cas d'usage, à quelles données, comment je dois faire attention de ne pas mettre n'importe quelle donnée dans l'outil. Bref, de la formation assez classique en présentiel, mais qui est très importante pour maîtriser ces outils.
Ouais, j'ai vu que c'était 8000 collaborateurs, c'est ça, formés déjà?
Oui, c'est ça, 8000 et sur que du présentiel, parce qu'on a pas mal, beaucoup plus sur des conférences et du webinar, mais on est à 8000 en présentiel avec des centaines de sessions qui ont eu lieu déjà partout en France.
Alors, c'est évidemment le secteur de l'immobilier qui nous intéresse aujourd'hui, mais vous vous intéressez à tous les secteurs d'activité ou vous êtes vraiment focus sur l'IMO?
Aujourd'hui, on peut faire tout secteur. Ouais. On a commencé en faisant 95% d'immobilier. Aujourd'hui, je dirais que c'est 70% de notre activité, l'immobilier. Mais l'entreprise grandissant, on commence à avoir des demandes un peu de tout secteur. Mais on veut vraiment garder, pour le coup, une spécialisation forte dans le secteur. On bosse avec des dizaines et dizaines de promoteurs. On a formé 3000 agents immobiliers, des vingtaines de bailleurs. Donc, on veut garder cette spécialisation quand même.
OK. Mathieu Nédonchel, donc je le disais, promoteur, bailleur, agence immobilière également. Quel regard vous portez de manière générale sur l'intelligence artificielle avant de parler de son utilisation?
Alors regard, c'est quelque chose qui est en train de s'imposer, qui est très récent. La société, d'ailleurs Mysteria, a été créée récemment. ChatGPT est ouvert depuis assez peu de temps aussi au grand public. Donc c'est une sorte de vague qui est en train d'arriver. Et donc ma vision, c'est simplement que cette vague-là, elle va nous arriver, elle va transformer nos métiers. Et donc il faut qu'on soit absolument plutôt dans l'anticipation de cette évolution plutôt qu'en réaction. Et qu'on puisse en profiter le plus rapidement possible de ses bienfaits. Profiter le plus rapidement possible de ses bienfaits.
Martin, vous êtes intervenu donc pour CICN?
Oui, tout à fait.
D'accord. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer le process? Vous parliez d'audit d'abord dans un premier temps et ensuite?
Exactement. On a fait avec CISN un process assez classique chez nous qui est de se dire on prend 5, 10, 15, 20 collaborateurs. On essaye d'identifier 3 à 4 métiers. Et puis dans chaque métier, on va aller parler aux collaborateurs. L'objectif, c'est pas tant de faire un plan stratégique sur comment l'IA va à 30 ans transformer l'entreprise. Je le sais pas et je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, ce sur quoi nous, on peut aider, c'est de dire on parle aux collaborateurs qui sont très opérationnels, on comprend toutes leurs tâches et derrière, on leur fait des recommandations et on leur dit sur tes 15 tâches identifiées, voici celles sur lesquelles l'IA va pouvoir t'aider. et voici de quelle manière l'IA va pouvoir t'aider, et voici celles sur lesquelles l'IA n'est pas faite pour ça, ou elles sont déjà optimisées, donc ne perdons pas de temps. Mmh. Donc on a fait ce premier travail d'auditer vraiment tous les cas d'usage possibles d'IA générative, et je parle bien d'IA générative, puisque c'est là-dessus qu'on se spécialise dans l'entreprise.
Donc une fois que vous avez audité, qu'est-ce qui se passe, la suite ?
Une fois qu'on a audité, donc on fait tout un set de recommandations. Oui. Donc les recommandations, pour nous, c'est trois choses. C'est un, montrer tous les cas d'usage possibles de l'IA, avec des vidéos très concrètes. C'est pas juste, tiens, vous pourrez peut-être écrire des annonces avec. C'est si vous voulez écrire une annonce de telle manière, voici comment faire. Donc on fait toutes les vidéos. Deux, c'est de proposer un outil. On pense qu'on a aussi un rôle, on a parlé un peu tout à l'heure, mais il y a un vrai sujet de data sur ces outils d'IA.
Clairement.
Il y en a, les 90% des outils ne sont pas du tout sécurisés. Ouais. Pour une entreprise, c'est très important de faire attention à sa data.
Oui, on va en parler d'ailleurs.
Donc nous, on essaie de proposer l'outil qui à la fois vient répondre à un maximum de cas d'usage quand même, mais qui, en répondant à ce maximum de cas d'usage, reste sécurisé. Donc on fait la reco d'outils deuxièmement. Et trois, on essaie de travailler autour d'une petite charte d'utilisation que les collaborateurs puissent savoir qu'est-ce que j'ai le droit de mettre dans mes outils d'IA, comment je peux l'utiliser. Quand est-ce que c'est interdit, autorisé, etc.
Mathieu, avant de parler du retour d'expérience, il a fallu peut-être convaincre déjà vos collaborateurs qu'ils allaient devoir se servir de l'IA et que ça allait les aider plus que les handicaper.
Oui, c'est ça. Alors, les convaincre. Donc, à la fois, pour moi, c'est deux choses. La première, c'est affirmer que c'est une priorité stratégique de l'entreprise. Donc, c'est l'incarner, organiser des choses, faire appel à Mister IA, organiser des webconférences aussi qu'on a fait. Mister IA nous a accompagnés pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. Et puis, la deuxième chose, c'est par l'exemple. Et donc, c'était tout le travail fait avec Mister IA. C'est, voilà, quelle tâche. Et puis, prendre, j'allais dire, par la main chaque personne pour lui dire, voilà, sur telle tâche qui te prend 10 minutes, ou une demi-heure, trois quarts d'heure, bah, tu pourrais prendre 5 fois, 6 fois moins de temps, etc. C'est comme ça en fait qu'il faut convaincre, puisque c'est vrai qu'on a besoin, nous, en tant qu'entreprise, à la fois d'avoir un éclairage sur qu'est-ce que c'est que l'IA, c'est quoi les outils, les applications, leurs limites, pour pouvoir s'y retrouver. Et puis on a surtout aussi besoin, de façon équivalente, on a besoin de gérer un projet de transformation d'entreprise. Puisqu'en fait, ce n'est pas nous qui allons utiliser l'IA, c'est chacun qui doit petit à petit s'en saisir. Et ce n'est pas quelque chose qui va. Qui va simplifier certaines tâches. Donc c'est chacun qui, à travers son emploi du temps, enfin son travail, doit identifier les moments où l'IA va pouvoir lui être utile. Et donc c'est vraiment à chacun de s'en saisir, de connaître l'outil. Voilà, donc on a besoin à la fois de s'y repérer et puis on a besoin d'avoir tout un projet d'accompagnement des salariés pour donc on convainc à la fois, on dit il faut y aller, vous voyez bien c'est l'avenir, il faut pas qu'on prenne de retard par rapport à nos concurrents, on voit qu'il y a des quick wins sur ces sujets-là et puis en même temps on va vous accompagner et puis on va vous convaincre petit à petit. On va commencer par les plus convaincus, parce que dans l'entreprise, quand on a lancé un club IA, on va faire la première rencontre vendredi prochain.
D'accord.
On a dit, quels sont les volontaires? On a une quinzaine de personnes qui spontanément ont dit, nous on y va parce qu'on veut y aller.
C'est bien.
Et puis en même temps, quand on échange dans l'entreprise avec les uns les autres, on se rend compte aussi qu'il y a toute une partie des personnes qui sont beaucoup plus réticentes, qui
forme de résistance,
en observation ou en résistance. Pour différentes raisons. Alors, parce qu'on n'a pas envie d'être. On s'interroge sur les données, où vont aller les données, moi j'ai pas envie d'être pisté, etc. Ou alors, on s'interroge sur le rôle de l'intelligence, est-ce qu'on n'est pas en train de tout donner à la machine, et nous, qu'est-ce qui reste à l'être humain, etc. Donc, il y a pas mal de questions, parfois un peu philosophiques, finalement, qui ressortent.
Bien sûr.
Et donc, on essaie de rentrer, nous, de façon pragmatique, et en s'appuyant sur les plus motivés. Et puis, petit à petit, on va essayer de transformer et d'accompagner l'entreprise.
Je veux rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de priorité stratégique. Pour quelle raison ?
Parce que tout simplement, on anticipe que ça va avoir un rôle très fort dans la productivité des entreprises. Mmh. Et donc, vous prenez une activité de syndic, par exemple. Si demain, une activité de syndic a bien intégré les potentiels de l'IA dans son activité, ils pourront pratiquer des prix qui différent toute concurrence. Mmh. Et en étant beaucoup plus présent sur les copropriétés, etc. Donc forcément, il y a un avantage stratégique très fort. Et ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Donc il faut, à mon avis, c'est pour ça que c'est une priorité stratégique, c'est qu'il faut dès maintenant s'inscrire dans le mouvement et essayer d'en profiter.
On parlait à l'instant peut-être d'une forme de résistance ou de réticence. Évidemment, ce n'est pas un cas unique, j'imagine. Vous avez dû voir ça dans d'autres entreprises que vous accompagnez. Mais de manière générale, est-ce que malgré tout, vous arrivez à constater une évolution dans la réceptivité vis-à-vis de ce sujet ?
Oui, et juste pour rebondir sur la priorité stratégique, c'est intéressant. On a vu là pour la première fois un des plus gros promoteurs en France qui a mis dans ses offres d'emploi qui a mentionné vous aurez le droit d'utiliser des outils d'IA générative.
D'accord. Donc,
ça devient très très stratégique.
Ouais.
C'est assez intéressant.
Ouais.
Et c'est vrai que quand ça va même dans le recrutement, c'est.
Et en même temps, c'est transparent aussi.
Et c'est transparent, c'est clair. Donc on comprend que ce soit une des priorités. Sur la partie réticence, alors oui, moi, nous, on est plutôt agréablement surpris de l'accueil que font les collaborateurs en général de ces outils-là. En fait, tout réside dans vraiment faire comprendre aux collaborateurs que ça reste ni plus ni moins un super assistant, ça reste un super stagiaire et qu'on est encore très loin des outils d'IA qui vont automatiser 100% de nos tâches. Je ne sais même pas si on y arrivera un jour. Donc nous, on se bat vraiment pour casser cette première barrière. Et d'ailleurs, quand vous utilisez un outil comme ChatGPT, vous le voyez directement. Mmh. Il va faire des fautes sur plein de choses, il ne va pas être précis si on ne le demande pas. Donc ouais. Ça reste un assistant, ça reste un stagiaire. Donc nous, on arrive vraiment avec ce message-là pour dire aux collaborateurs, tu as maintenant dans les mains un outil de bureautique supplémentaire. Ça reste un outil de bureautique avancé et supplémentaire. Mais malgré ça, et même en amont, on sent quand même qu'il y a de plus en plus de Français qui y croient, qui veulent l'utiliser. Je crois que les dernières stats de l'IFOP, c'est qu'il y a 60% de Français en plus qui utilisent l'IA par rapport à il y a un an.
Ouais.
Donc ça commence, on est à 99% des étudiants qui l'utilisent toute la semaine.
Pas
forcément à bon escient, malheureusement, mais c'est un vrai sujet. Parce que ouais, les étudiants d'aujourd'hui sont les collaborateurs de demain, et donc si eux, ils sont 99% à l'utiliser. Mmh. Donc on est plutôt agréablement surpris, et quand on regarde les courbes d'ailleurs, on a quelques pays qui vont beaucoup plus vite que nous, d'ailleurs des pays nord-africains, comme le Maroc, ont un taux de pénétration de l'IA qui est assez dingue. Et ben en France, on n'est pas si mal. Quand on regarde les classements, on est plutôt bien. Donc je pense qu'on a plutôt une population qui se dit j'ai compris, je veux l'utiliser, expliquez-moi un peu comment ça fonctionne, et derrière, allons-y.
À cette question-là, vous pouvez évidemment y répondre tous les deux, mais dans ce secteur d'activité-là, qui est l'immobilier, quels sont finalement les bénéfices les plus flagrants à utiliser l'intelligence artificielle ?
On retrouve des bénéfices dans tout ce qui est réponse aux clients, annonce, tout ce qui est lié à la communication, tout ce qui est lié au compte rendu, aux comparaisons de documents, par exemple des devis, des choses comme ça. Tout ce qui est synthèse aussi de vulgarisation de d'informations un peu compliquées, parce qu'il y a aussi cette capacité, ChatGPT en particulier, à vulgariser. En fait, c'est tout un certain nombre de tâches hein, justement qu'il faut identifier. Mais voilà les principales à mon sens.
Martin.
Exactement, et on pourra en citer énormément, mais moi ce que j'aime bien dire dans l'immobilier, c'est que je trouve que c'est un secteur qui, sur lequel on traite beaucoup beaucoup de documents. Si on prend juste ce métier de syndic, c'est avec toute la journée, on traite du document. Si on prend les bailleurs, et en fait bah, l'IA elle est très forte pour aller analyser les documents et les synthétiser. Donc déjà là-dessus, et c'est pas le cas de tous les secteurs d'activité, il y a plein de secteurs d'activité qui ont moins de cas d'usage, mais on a ça, on a un secteur qui est peut-être un petit peu moins digitalisé, qui a fait moins de gains de productivité que d'autres depuis 20 ans, et c'est pour le coup une techno qui permet un peu de rattraper ce retard-là. Mmh. Donc pareil, c'est une super opportunité pour les entreprises de l'immobilier, et en effet, que ce soit sur de la lecture de baux, de la synthèse de bail, l'écriture d'annonce, à la préparation et compte rendu de visite, il y a énormément de choses.
Allez, je vais tomber dans le cliché, mais c'est volontaire. Avec tous vos outils, là, vous allez forcément détruire des emplois ?
Non, je pense pas. Moi, je pense pas. Aujourd'hui, ça fait un an qu'on nous dit ça, un an et demi. D'ailleurs, McKinsey nous avait fait le grand méchant loup, je sais pas s'ils sont là ou pas, mais de nous dire qu'il y a 500 millions d'emplois qui vont disparaître, bah, en tout cas en 8 ans. On est à zéro dans la première année, donc on a plus que 7 ans, il faut qu'on se dépêche. Mais nous, on ne pense pas du tout. Il y a quelques boîtes aussi qui ont annoncé aux États-Unis, Klarna, etc., qui ont fait des gros effets d'annonce de dire on a supprimé 700 emplois, on a mis des IA à la place. Il n'y en a aucune qui s'est avérée vraie. Donc pour l'instant, ce n'est pas une techno du tout qui est assez mature pour détruire des emplois. Est-ce que c'est une techno qui, à terme, va nous permettre à tous de faire plus et donc va entraîner moins de recrutement, ça c'est possible, nous on y croit. Est-ce que dans 5 ans le marché du travail sera un peu plus restreint qu'aujourd'hui parce qu'on sera tous un peu augmentés par de l'IA ? C'est possible, ça va demander de s'adapter. Mais de là, que ça détruise des emplois, on n'y croit pas et on ne le voit pas du tout depuis un an et demi et ce n'est pas non plus dans les tendances de fond.
Mathieu. Voilà, c'est un outil qui améliore la productivité. Là, on pourrait faire ce procès-là a été fait depuis
oui,
des siècles, toutes les innovations qui améliorent la productivité. Elle a clairement pour conséquence, et d'ailleurs c'est comme ça qu'a présenté Martin les choses et comme on a travaillé dans l'entreprise, d'éliminer les tâches qui sont à faible valeur ajoutée dans une journée d'une personne.
Ouais.
Et donc par exemple, vous êtes un syndic, je reprends cet exemple-là, vous pouvez passer plus de temps dans l'échange, l'échange avec les copropriétaires, plus de temps sur place, puisque vous savez que les tâches à faible valeur ajoutée sont beaucoup plus rapides. Donc quand c'est bien utilisé, c'est quelque chose qui va pouvoir, à mon avis, même renforcer la présence humaine, les échanges, puisque justement tout le back-office qui prend beaucoup de temps est réduit à moins.
Et c'est vrai que là-dessus, c'est intéressant. Nous, on trouve souvent que ça vient contrer un peu les effets négatifs du digital. Si on prend juste syndic ou agent immobilier, nous, tous les jours, il y a des agents immobiliers qui nous disent, entre guillemets, à cause du digital, bah maintenant, comme mes concurrents font de la pub sur Facebook, LinkedIn, etc., je suis obligé de communiquer. Des syndics, pareil, qui me disent, bah, avant qu'il y ait le mail, les gens prenaient peut-être plutôt 2-3 semaines et réfléchissaient à leurs problèmes avant de m'appeler. Maintenant, ils ont un problème, ils appuient sur le mail. En fait, ça a rendu les choses tellement rapides, le digital, que les gens, nous, on nous dit souvent, on passe trop de temps dessus. Et l'objectif de l'IA, c'est peut-être de se dire, bah, faisons faire un peu plus de posts réseaux sociaux à l'IA, faisons peut-être répondre à quelques mails à l'IA, et au moins, bah, en tant que syndic ou en tant qu'agent IMO, bah, je peux peut-être passer plus de temps sur le terrain.
Exactement, ça. Il faut que dans nos entreprises, qu'on soit bailleur social, promoteur, agence immobilière, sans arrêt, on est en train de dire aux équipes, il faut être encore plus sur le terrain, encore plus au contact. On passe leur temps à dire ça. Et donc, ils nous disent, mais nous, on a de l'administratif, on a des mails, on a etc.
Et donc là,
c'est ça un peu le débat. Okay. Ouais. Et donc, c'est l'idée, c'est de nous aider à faire ce passage pour effectivement être plus sur le terrain tout en assurant le travail
administratif. Oui, d'ailleurs, le vrai premier bénéfice qu'on met en avant, en général, c'est l'automatisation des tâches. Donc, ce qui permet effectivement de se concentrer davantage sur ce pourquoi on travaille, logiquement. Ok, vous parliez de procès d'intention. Effectivement, à chaque nouvelle évolution, je ne suis pas sûr que pour le Minitel, c'était la même chose. Un mot rapide peut-être sur effectivement la sécurité, la confidentialité aussi au niveau des algorithmes qui sont utilisés. Comment est-ce que vous garantissez ça aux collaborateurs qui peut-être peuvent éprouver une forme de réticence sur ces questions-là?
Alors aujourd'hui, on a de la chance, c'était pas le cas il y a un an, mais aujourd'hui, on a des outils très puissants qui sont sécurisés. Tu prends un copilote qui tourne sur la suite de Microsoft ou même un ChatGPT entreprise qui commence vraiment à être déployé dans des grosses boîtes françaises. Il y a des versions sécurisées, donc ça, c'est suffisant. Ils n'entraînent pas leur modèle avec les données si on est sur les bonnes versions. Ils sont sur des serveurs qui respectent le RGPD si c'est sur les bonnes versions. Donc aujourd'hui, nous, on dit que c'est plus en tout cas une limite pour déployer l'IA. Il ne faut surtout pas que ce le soit, parce qu'on a un vrai problème, notamment, c'est moins le cas... si on parle d'agence, de syndic, etc., c'est moins le cas. Par contre, sur des gros corporates, on le voit, ça devient un vrai blocage de se dire attention, on a tellement peur sur nos données qu'on interdit l'IA générative. Et on a un problème, c'est que quand on a des concurrents qui ne sont pas français, eux, ils ne font pas ce distinguo-là et eux, ils y vont à fond. Il faut qu'on fasse, nous, on a un peu la mauvaise casquette dans ce jeu-là, mais on dit souvent attention, certes, il faut faire attention aux données, on va vous donner les outils les plus sécurisés, mais il ne faut pas non plus sacrifier les gains de productivité qui nous tendent les bras juste pour des questions de données, parce qu'encore une fois il y a des gens qui font pas ça, et on le voit même entre petites et grandes entreprises. On est choqué tous les jours de voir des études notariales, des cabinets de syndic avec 10 personnes, etc., qui mettent tout sur ChatGPT et qui font un gros gain de productivité. Et si l'entreprise un peu plus grosse derrière, elle se dit moi je mets tout en pause parce que attention aux données, il y a un vrai sujet de concurrence. Donc faut vraiment le prendre en main pour se dire je veux sécuriser mes données, mais je veux quand même faire profiter de ces gains de productivité.
C'est vrai que les deux choses avancent en parallèle. À mon sens, il faut à la fois engager le projet de transformation d'entreprise parce qu'il y a tout de suite des gains à faire, et puis il faut s'inscrire dans cette dynamique là mais en parallèle, le monde de l'IA, des outils, évolue en permanence, doit répondre aux questionnements légitimes de RGPD, de sécurité informatique, et puis toutes les autres questions qui vont lui être posées. Et donc en fait, en parallèle, les choses avancent, et au fur et à mesure on ajuste notre stratégie, mais il faut engager dès maintenant ce mouvement d'entreprise, parce qu'après on dira c'est plus ChatGPT, c'est un tel, on s'adaptera en fonction de l'évolution technologique, mais il faut le transformation d'entreprise, c'est dès maintenant.
Alors on arrive bientôt au terme de cet entretien, et avant de vous remercier, j'ai peut-être une question commune aussi à vous poser, c'est finalement si on essaye de se projeter dans 5 à 10 ans, comment est-ce que vous voyez justement le progrès, la progression de l'IA dans le domaine de l'IMO?
Déjà, 6 mois, je vais avoir du mal à répondre. c'est la beauté de cet écosystème.
Ben oui, non, mais c'est de la science-fiction.
Nous, ce dont on est vraiment persuadé, il y a quand même 2-3 choses. La première, c'est que un ChatGPT ou un copilote, on s'en passera pas. Je pense que ça va devenir un assistant qu'on aura dans notre poche. Ça le devient déjà. Et en fait, qu'on soit chez un bailleur, ou demain qu'on soit agent immobilier, ou qu'on soit notaire, ou qu'on change de métier, peu importe, on aura toujours cet assistant. Ça reste un assistant généraliste qui peut tout faire. Donc nous, on est persuadé de ça. Les outils métiers qu'on utilise au quotidien vont intégrer de l'IA générative. C'est-à-dire, dans les outils métiers de la transaction immobilière, commence à intégrer la rédaction automatique d'annonces. Et je ne pense pas qu'elle se fera sur ChatGPT, elle va rester dans l'outil métier. Mais je pense qu'on aura toujours cet assistant qui va nous aider sur plein de tâches. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je pense que l'IA va devenir très vocale. On se rend compte quand on utilise ChatGPT ou Copilot, on passe trop de temps à écrire. Et là, aujourd'hui même, pendant qu'on parle, il y a le tout nouveau modèle de voix qui vient de sortir de ChatGPT et qui nous dit, en fait, par rapport à ce qui est sorti il y a 6 mois, c'est le jour et la nuit. Alors que moi, celui d'il y a 6 mois, j'utilise déjà tous les jours. Donc je pense qu'on va passer sur du vocal et on va avoir une interaction avec l'ordinateur qui va être très différente.
On va avoir un D-Siri ou un Alexa très IA. En fait.
Exactement, très IA et beaucoup plus sur l'ordinateur, alors qu'aujourd'hui, l'ordinateur passe que par nos mains. Demain, je pense beaucoup plus par la voix.
Mathieu ?
Je pense que ça va être complètement être intégré, ça va devenir une évidence en fait. Comme quand on se projette il y a 25 ans, quand il n'y avait pas de téléphone portable, on a du mal à imaginer aujourd'hui à quoi ça pouvait ressembler. Et je pense que ce sera pareil, il sera tellement intégré, mais à la fois dans nos vies professionnelles, mais dans nos vies personnelles. Et donc en fait, ça fera partie du quotidien, ça sera complètement intégré.
Un grand merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Je vous souhaite un excellent salon.
Merci.
De belles rencontres aussi. C'est aussi exactement fait pour ça, ce type de rendez-vous. Un grand merci à vous de votre fidélité. Nous faisons vivre cette 84e édition du Salon HLM depuis Montpellier et sur le stand de Radio Immo et Radio Territoria et sur le stand surtout de Procivis qui nous accueille. Merci de votre fidélité et à très vite.
Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.